Bonsoir. Clôturière mercredi à Washington du sommet États-Unis-Afrique. Lors de ce sommet, le président américain a annoncé notamment la mobilisation de plus de 30 milliards de dollars à titre d'aide publique et d'investissement privé à destination de l'Afrique. Barack Obama appelle les dirigeants africains à créer un environnement politique et économique propice aux affaires. Comment analyser cette décision de l'administration américaine? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 8 août 2014. Pour en parler, je reçois dans cette émission François Nzekouye, député national de la majorité et cadre du PPRD. Monsieur Nzekouye, bonsoir.
Bonsoir, Kéline Couté.
Emmanuel Ilunga, président du parti politique Action républicaine pour le progrès, un parti politique de l'opposition. Monsieur Ilunga, bonsoir.
Bonsoir.
Et Michel Nsomwe, économiste et expert indépendant. Monsieur Nsomwe, bonsoir.
Bonsoir, Kelly.
Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le sommet États-Unis-Afrique s'est clôturé hier à Washington avec une promesse du président américain d'investir en Afrique. Parmi les retombées de ce sommet, Barack Obama annonce un montant de 33 milliards de dollars, dont 12 consacrés au programme Power Africa, un programme qui vise à doubler l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne. C'est autour des thèmes de la gouvernance, économie, santé et sécurité que le sommet a été organisé. Samuel Katchak pour plus de détails.
Mettant en avant cet engagement de 33 milliards de dollars et devant un parterre des dirigeants et d'hommes d'affaires, le président américain a annoncé que des entreprises américaines, Marriott, Coca-Cola et General Electric notamment, s'étaient engagées sur des investissements d'un montant total de 14 milliards de dollars dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, de l'hôtellerie, de la construction, de la banque ou encore des technologies de l'information. Le secteur privé a aussi augmenté ses promesses d'investissement dans le cadre du programme Power Africa qui vise à terme à doubler l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne. Au total, en prenant également en compte les apports de la Banque mondiale et du gouvernement suédois, 26 milliards de dollars sont désormais mobilisés sur ce projet. Après avoir mis en avant les chiffres, Barack Obama a longuement insisté sur la responsabilité pesant sur les épaules des dirigeants africains. Pour lui, aussi cruciaux que soient ces investissements, la clé de la prochaine ère de croissance en Afrique ne se trouve pas aux États-Unis, mais en Afrique, a-t-il martelé. Le capital est une chose, les programmes de développement sont une chose, mais l'état de droit est encore plus important. Les gens doivent être capables d'envoyer des biens sans payer un pot de vin ou embaucher le cousin de quelqu'un, a-t-il ajouté. Le président américain s'est dit confiant dans le renouvellement et la modernisation du principal outil d'échange entre l'Amérique et l'Afrique, l'AGOA. Lancé sous la présidence de Bill Clinton, ce programme américain accordant des avantages commerciaux à certains produits africains expire fin 2015.
Merci Samuel Katchak pour ces détails. François Nzekouye, je rappelle que vous êtes député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Vous êtes rapporteur de la commission environnement, ressources naturelles et tourisme à l'Assemblée nationale. Quelle lecture vous faites de cette décision de l'administration Obama d'investir plus de 30 milliards de dollars en Afrique?
C'est une bonne décision de part et d'autre, mais l'Amérique ne les investit pas pour les beaux yeux des Congolais ou des Africains. Excuse-moi, je suis trop habitué à parler Congo que de parler Afrique.
C'est normal.
Donc je disais que les États-Unis ont pris cette décision tout simplement parce qu'ils ont constaté un retard qu'ils ont accumulé face à d'autres puissances, notamment des puissances asiatiques et d'autres pays émergents qui ont une place de choix en Afrique aujourd'hui. Et que l'économie américaine, elle est en recul sur plusieurs axes et il a besoin des différents débouchés pour pouvoir se les faire. Et donc, c'est fort de la croissance africaine qui est la plus forte à travers le monde aujourd'hui que les États-Unis se disent « nous pouvons investir en Afrique parce que nous avons à gagner en Afrique ». Et donc, cela doit être très clair. Les États-Unis investissent en Afrique parce qu'ils ont à gagner en Afrique.
Est-ce que les Africains ont aussi à gagner
Je vais y arriver, effectivement. Il dépend de nous de voir de quelle manière nous devons tirer profit des investissements américains. Nous ne devons pas continuer à pleurnicher comme nous l'avons fait de cette manière avec les investissements chinois où nous avons eu l'impression que les Chinois sont venus prendre le beurre et l'argent du beurre. On a signé un contrat avec eux pour qu'ils investissent dans nos routes, mais ils ont conditionné par le fait d'avoir les engins venant de chez eux, d'avoir des employés qui viennent de chez eux, et les banques qui offrent l'argent doivent être les banques chinoises. Cette question-là, il faudrait que nous la regardions de près avec les Américains. Parce que Obama dit, nous allons investir pour donner des emplois aux États-Unis et pour développer l'Afrique. Vous comprenez bien que le souci premier dès Obama, c'est de retrouver des débouchés pour les entreprises américaines et non pas comme développer la. En fait, la conséquence serait induite le développement de l'Afrique. Mais sa préoccupation première est celle de donner des débouchés à une Amérique qui est actuellement essoufflée. Et donc, cela doit être pris. Mais d'autre part, on doit considérer cette décision d'Obama comme une victoire en tant que citoyen d'origine africaine qui n'avait jusque-là, en deux mandats, rien fait de concret pour l'Afrique, une occasion de se racheter. Parce que,
Est-ce qu'il était obligé de faire quelque chose pour l'Afrique?
Non, je crois que sentimentalement ou moralement, il a des racines. On ne peut pas oublier d'où on vient. Si Obama peut ignorer que son père kényan l'a mis au monde et qu'il n'a aucun devoir vis-à-vis de l'Afrique, ce serait dommage. Mais je crois qu'il les prend aussi de cette manière-là. Mais, j'ai dit encore une fois, nous les Africains, nous devons savoir de quelle manière tirer profit de ces investissements. Ils disent à peu près 26 milliards de dollars vont être investis dans les projets Power Africa. Nous savons que la RDC, à l'occurrence, est un pays qui dispose de potentialités énormes en matière d'hydroélectricité. Donc il faudrait que nous sachions présenter des projets bancables pour pouvoir attirer une grande partie de cette manne, non seulement pour les infrastructures d'électricité, mais pour pouvoir aussi distribuer l'électricité en Afrique et en tirer des dividendes pour les biens de la RDC. Ça, c'est un aspect qui nous intéresse. Et Obama parle d'investir dans la nouvelle génération. Il faudrait bien que nous puissions exiger des entreprises de télécoms qui aujourd'hui à travers le monde, qui fabriquent des ordinateurs, qui fabriquent des téléphones, non seulement de venir vendre chez nous, mais de créer des industries dans notre pays pour aussi donner de la main-d'œuvre aux Congolais ou aux Africains. Donc ces questions, à mon avis, doivent être débattues de manière à ce que ces investissements américains ne soient pas constitués simplement des véhicules ou des engins qu'on va nous amener ici, mais voir de quelle manière nous pouvons, avec les technologies américaines, monter ces engins, ces véhicules, ces téléphones, ces laptops chez nous en Afrique, de manière à ce que il y ait transmission des connaissances, des technologies, et en même temps qu'il y ait distribution de revenus à travers la main-d'œuvre qui va être employée en Afrique.
33 milliards de dollars, est-ce suffisant pour l'Afrique, pour plus de 50 pays?
Non, je ne crois pas que ce soit suffisant, effectivement. Mais je me dis, ça c'est ce qu'ils mettent sur la table, et ce qui est annoncé officiellement. Je parie que les délégations qui sont parties aux États-Unis ont eu des négociations particulières avec des entreprises américaines pour pouvoir chacun voir s'il peut tirer plus que ce qui a été annoncé. Ça, c'est l'aide publique et une petite partie, c'est
les privés.
Mais je parie qu'il y aura bien plus. Mais il est vrai que ce que vous dites, ça reste quand même une goutte d'eau dans l'océan. Comparé aux échanges que la Chine a avec l'Afrique, ça se compte à autour de 200 milliards de dollars par an, même si l'aide publique chinoise reste autour de 6 milliards. L'Amérique reste en recul par rapport à l'Asie et encore plus par rapport à l'Europe, qui est un des grands partenaires d'Afrique. Donc c'est de la récupération que Obama veut faire, c'est bien pour son pays. À nous de voir de quelle manière nous allons tirer profit de cette offre américaine.
Merci François Nzekouye. Emmanuel Ilunga, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne. Bonjour, bonjour.
Bonjour. Je rappelle que vous êtes président du parti politique Action Républicaine pour le Progrès ARP. C'est un parti politique de l'opposition.
De l'opposition, oui.
Voilà, c'est dit de l'opposition. Vous êtes également opérateur économique. Vous avez investi en RDC, en Guinée-Conakry et en France. Quelle est votre lecture à vous par rapport à cette décision de l'administration Obama d'investir plus de 30 milliards de dollars en Afrique, une récupération, comme l'a dit François?
Non, moi je ne pense pas que ça soit une récupération. Nous sommes dans un système de partenariat. Donc les États-Unis cherchent de nouveaux partenaires, ce qui est normal. Les pouvoirs au Congo ne voient dans cet investissement qu'une sorte de, je dirais, d'ingérence dans les affaires intérieures de la RDC, parce que cet investissement est lié à un certain nombre de conditionnalités qu'il faut respecter. Parmi ces conditionnalités, il y a la bonne gouvernance, il y a le respect des droits des citoyens, il y a un certain nombre de conditions qui ne sont pas respectées aujourd'hui en République démocratique du Congo, et dont le gouvernement ou le pouvoir de M. Ekouye, si je n'écorche pas son nom, qui m'excuse, et sont responsables. Donc moi je pense que les États-Unis est de bonne foi, et de très bonne foi même, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos cadres qui sont formés aux États-Unis, des ingénieurs de très haute qualité, et qui reviendront dans leur pays d'origine pour y apporter une valeur ajoutée. Parlons de la Chine. D'abord, M. Ekouye, j'ai souligné une chose. Il a parlé que les États-Unis étaient que les États-Unis sont essoufflés. Mais monsieur, je crois qu'il doit être informé. Il est quand même député. Et au jour d'aujourd'hui, l'information est à la portée de tout le monde. C'est quand même la première puissance au monde, jusqu'à preuve du contraire. Et les États-Unis importent et exportent beaucoup. Ils ont un niveau de vie très élevé, sans compter la technologie. Donc ces propos sont des propos, je trouve, un peu pas très honnêtes. En parlant de la Chine, des investissements chinois au Congo. Les Chinois, vous regardez chez nous en RDC, les Chinois vous ramènent des engins qui sont chinois, ils viennent avec des prisonniers chinois et ils viennent construire quelques routes, hein, quelques trois routes comme ça, et ils restent définitivement chez nous dans notre pays et ils ramènent énormément des Chinois, je ne vais pas dire qui nous envahissent, mais je trouve que la majorité au pouvoir aujourd'hui en RDC, elle manque d'ambition, elle est sourde et muette et elle ne voit pas. Alors, je suis désolé, parce que quand vous regardez les taux de mortalité au Congo, d'abord l'indice de pauvreté, nous sommes les derniers dans le monde, en termes de pauvreté. Nous sommes les derniers. Alors, il peut beau dire, entre les discours et les actes, la population veut voir les actes. Donc, si les États-Unis nous proposent aujourd'hui de venir chez nous, ben, nous sommes preneurs, parce que nous sommes les plus pauvres au monde. À partir de ce moment, à partir du moment où nous souffrons de la pauvreté au quotidien, nous avons moins de paroles et moins de place sur l'espace public. Vous regardez les taux de mortalité infantile, mais il est le plus élevé en Afrique. Quand vous regardez les PIB, les produits intérieurs bruts, pour l'ensemble des Congolais, sur 70-80 millions d'habitants, nous sommes à 15 millions 300. Quand vous prenez 15 millions 300, vous divisez par 80 millions d'habitants, le PNUD est incapable de calculer les PIB par habitant.
Alors, Monsieur Ilunga, est-ce que cette décision, les Américains ne la prennent pas d'abord pour leurs intérêts?
Oui, mais chère madame, vous savez, toute la vie est rythmée par les intérêts. Il est normal que les Américains regardent leurs intérêts et il est normal qu'ils essaient de faire des projections en Afrique pour les longs termes. On ne peut pas leur interdire ça. Mais ce qui est le comble, c'est que nous, les Congolais, nous devons avoir aussi une vision et des ambitions. Nous n'avons pas l'ambition, nous n'avons pas la vision. Pourquoi? Parce que nous avons des dirigeants et nous avons un parlement qui n'est qu'un parlement de nom. Parce qu'il est un parlement, il est au service d'un homme. Les parlementaires ne sont pas au service du peuple, des citoyens, mais au service d'un homme. Et c'est très dommage.
Alors 33 milliards de dollars, vous estimez que c'est suffisant pour toute l'Afrique?
Vous savez, moi c'est la volonté qui compte. c'est pas en termes de quantité d'argent qui doit venir en Afrique ou au Congo RDC. Moi, je pense que s'il y a la volonté de booster l'Afrique pour aller vers les lumières, je crois que cette volonté va avoir un effet d'entraînement. Et cet effet d'entraînement va créer encore de la valeur ajoutée, et encore, c'est pas, on peut amener des tonnes de masses d'argent, mais s'il n'y a pas cette volonté, il n'y a pas cette ambition politique d'être grand, malheureusement, on ne sera pas grand.
Alors,
nous, en RDC, chère madame, si vous me permettez, nous sommes les pays les plus riches potentiellement en Afrique, si pas au monde. Mais nous sommes les peuples les plus pauvres au monde. Pourquoi? Mais parce que nous avons toujours eu des pouvoirs ou des gouvernements qui n'ont jamais eu d'ambition. Nous avons eu toujours des gens qui n'ont pas des visions, des grandes visions pour notre pays, et malheureusement, nous payons cash. La volonté des États-Unis de venir chez nous, elle doit être saluée. Parce que les Américains, ce ne sont pas des Congolais de la RDC. C'est un autre peuple, ça s'appelle les peuples américains. Ils ont vu que les Congolais de la RDC ou l'Afrique est en difficulté, donc nous allons venir chez vous avec 33 milliards. Nous, on ne peut que saluer,
merci,
mes chers amis. Pourquoi chaque fois vous devez voir un piège dans une volonté politique quelconque?
Merci Emmanuel Ilunga, Michel Nsomoué, économiste et expert indépendant. Vous avez suivi le point de vue des uns et des autres, de François Nzikouye et de Emmanuel Ilunga. Pour François Nzikouye, les États-Unis veulent récupérer le retard accumulé face à d'autres puissances, notamment la Chine, l'Union européenne aussi, hein, je peux dire. Et pour Monsieur Emmanuel Ilunga, c'est un partenariat États-Unis Afrique, il faut saisir l'occasion.
Mais je pense que les deux ne sont pas en contradiction. Qu'on dise que les États-Unis d'Amérique veulent rattraper le retard qu'ils ont accumulé par rapport aux avancées chinoises et européennes, notamment, n'est pas incompatible avec le fait de développer un partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Ce partenariat peut avoir justement comme finalité le souci de rattraper un certain retard. Ce qui est vrai, c'est que la planète est menacée, comme les Américains, même Obama lui-même l'a dit, le président Obama l'a dit, que la croissance de l'économie, le point focal de la croissance ou la source de la croissance dans les années qui viennent, ce n'est plus les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas la Chine, c'est l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique reste le continent le moins exploité jusqu'à ce jour par rapport aux autres continents de la planète. Donc, ne pas avoir cette vision de s'ouvrir vers l'Afrique pour tirer le maximum d'intérêt possible, ça serait de la cécité politique de la part des Américains. Donc, je suis tout à fait d'avis que les États-Unis d'Amérique viennent en Afrique d'abord pour leurs intérêts, c'est vrai, bien que Obama, dans son discours, a été très, je peux dire, très séduisant quand il commence par dire « Je vous parle en tant que président des États-Unis d'Amérique et en tant que fils d'Afrique ». C'est une réalité. Donc là, il a fait vibrer quand même quelque part une certaine corde sentimentale, je peux dire africaine. Son cœur a vibré un tout petit peu au rythme de ses origines, ce qui n'est pas mauvais. Et qu'on dise, comme l'a dit l'honorable, vous avez dit François Nzikouye, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on dise que Obama ne devrait pas quitter le pouvoir aux États-Unis d'Amérique sans avoir posé un geste en faveur de l'Afrique, je ne pense pas que ce soit faux, que ce soit mauvais. Je pense pour quelqu'un qui a un peu de sang africain, pour une première fois, une toute première fois qu'il y a un président afro-américain à la tête des États-Unis d'Amérique, ne pas penser à l'Afrique, et surtout que Obama n'a pas pensé à l'Afrique seulement en étant président. Dans le temps, on a vu dans les documentaires, il a rendu visite jusqu'à la tombe de son père, plus d'une fois. Y compris avec Michel quand il était encore fiancé, je pense. Donc ça signifie que quelque part, Obama a un devoir vis-à-vis de l'Afrique. Il avait un devoir. Il devait accomplir ce devoir.
Mais est-ce que cet investissement va contribuer au développement des pays africains? Les Chinois, ils ont investi en Afrique. Les Européens, ils ont investi en Afrique. Mais apparemment, l'Afrique ne décolle pas, Michel Somoy.
Ça devient une question terrible que vous me posez là. Est-ce que les investissements, tout court d'ailleurs, l'aide à l'investissement, comme on l'appelle en économie, peut-elle contribuer au développement, à la croissance de l'économie africaine? Je vais vous répondre tout de suite, et malheureusement, je dirais non. Je dis non, pourquoi? Parce que l'expérience
d'ailleurs lier l'investissement, l'aide à l'investissement au développement, c'est revenir au modèle économique des années 50. Le modèle de Domar Adol, de Sekou Cissé, le rôle des économistes savent bien de quoi je parle. C'est Monsieur Domar, un Américain de son État, qui en 1946 avait publié son premier livre pour dire, pour permettre à des pays pauvres de se développer rapidement, il faut leur apporter une assistance à l'investissement, simplement parce que leur épargne est insuffisante par rapport aux investissements requis. Je souligne bien le mot requis. Ainsi, parce qu'il y a un déficit du financier du point de vue disons par rapport aux besoins de développement, il faudrait combler ce déficit par une aide à l'investissement. C'est-à-dire, en quelque sorte, il faut lier à un certain stock de matériel correspond à un niveau donné de croissance économique, mais l'expérience historique a démontré que cela est resté faux. C'est resté faux, essentiellement en Afrique. Et ceux qui prennent le cas, justement, prennent le cas de l'aide à l'investissement massive que les mêmes États-Unis d'Amérique avaient fait dans les années 60 en faveur du Ghana. Quand le Ghana a acquis son indépendance en 1957, il s'est engagé dans des larges projets. Vous savez, le Congo aussi, on a parlé d'éléphants blancs à un moment donné. Au Ghana également, il y a eu ce genre de projets, notamment le plus grand lac artificiel qui soit connu, le lac Volta, et qui devait naître d'un barrage hydroélectrique et qui devait fournir de l'énergie pour industrialiser le Ghana à peine indépendant. Alors il a fallu de l'aide massive à l'investissement qui est venue notamment des États-Unis d'Amérique et qui malheureusement au bout d'un certain nombre d'années, notamment 1982, on s'est rendu compte que le citoyen ghanéen restait plus pauvre que le Ghanéen de 1957 au jour de son indépendance. Donc, il s'est avéré que l'aide à l'investissement n'a pas forcément apporté le développement tel qu'il a été attendu. Je ne dis pas que c'est une recette qui doit rester considérée comme telle. Je veux dire seulement qu'il y a des conditions indispensables pour que l'aide à l'investissement puisse effectivement promouvoir le développement.
Quelles sont ces conditions, Michel Somoué?
Elles sont nombreuses. Il faut organiser l'économie nationale. Il faut envisager un plan bien structuré, bien élaboré, un plan d'investissement, un plan qui s'assigne des objectifs cohérents de développement économique. J'ai parlé au départ de l'organisation interne de l'économie, parce que notamment, pour ce qui concerne, je vais revenir à mon pays que j'aime beaucoup, le Congo, vous savez si autant de milliards de dollars, bien que c'est peu, 33 milliards de dollars, c'est à peine 600 millions de dollars à peu près par pays, si on compte bien, c'est insignifiant, 33 milliards pour toute l'Afrique, c'est à peine ce qu'on peut apporter à un pays comme l'Ukraine pour sortir de la situation, à un seul pays. Bon, qu'on apporte ça à toute l'Afrique, c'est largement insignifiant, c'est vrai. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que nous avons dans nos pays respectifs des structures capables d'amortir des chocs qui viendraient d'une telle aide? Est-ce que nous avons des capacités d'absorption suffisantes d'une telle aide si elle venait chez nous, si elle tombait chez nous? Prenez le cas du Congo avec sa nouvelle réglementation de change. Est-ce que cette aide américaine a supposé qu'on donne seulement aujourd'hui 1 milliard qui ne tombe par-dessus tout dans notre pays aujourd'hui, 1 milliard? Est-ce que nous avons une politique monétaire capable d'amortir ce choc afin que cela ne dérape pas, afin que ça ne sombre pas dans la corruption, comme a dit lui-même le président Obama, pour qu'on puisse, ça serve à engager les uns les autres, merci, les cousins les autres. Donc il y a beaucoup de conditions qu'il faudrait mettre en place avant qu'on puisse...
Merci Michel Somoué. François Nzikouye, Barack Obama appelle les dirigeants africains à créer un environnement politique et économique propice aux affaires. C'est quelque chose quand même qu'on reproche à beaucoup de pays africains, et en particulier à la RDC.
Oui, vous avez raison. Je crois qu'il n'y a pas à se cacher là-dessus. Nous venons, la plupart des pays africains, des dictatures qui ont engendré certaines tares que tous les pays africains qui sont en train d'évoluer aujourd'hui combattent. Il y a de plus en plus de normes sur la transparence qui existent dans beaucoup de pays, et la RDC vient d'être élue comme un pays conforme à l'ITIE, qui est une des normes en matière de transparence. Elle n'est pas l'unique, parce que ça ne concerne qu'un secteur, le secteur extractif. Il y a aujourd'hui au ministère du Plan, chaque jour, des nouvelles mesures qui se font par exemple, les temps de création d'entreprises, les conditions pour pouvoir faire des affaires en République du Congo. Il y a des évolutions, mais je ne dis pas que tout est parfait aujourd'hui. Il y a encore un long chemin à faire. Mais je voudrais quand même, si vous me permettez, Kelly, revenir sur les propos d'Emmanuel Ilunga, qui dit que l'économie américaine est à merveille aujourd'hui. Moi, j'ai la presse d'aujourd'hui, la presse américaine, qui dit in extenso ceci.
Finalement, la chute de la première économie mondiale aura donc été quasiment 3 fois plus rapide et a atteint une ampleur sans précédent depuis le début 2009, renvoyant à une époque où les États-Unis se débattaient encore dans une récession post-crise financière. Lui qui dit que l'information est accessible à tout le monde, je lui renvoie la presse de ce matin aux États-Unis. Parce qu'il croit être le seul à avoir le monopole de l'information, je lui donne la vraie information. L'économie américaine est en difficulté. Personne de sérieux, je suis économiste comme Somoué, aucun économiste sérieux peut vous dire que l'économie américaine se porte bien aujourd'hui. Obama lui-même l'a dit, l'avenir des investissements américains vont se faire en Afrique, c'est parce que l'Afrique est plus prometteur que les États-Unis. Pourquoi est-ce qu'on doit faire débat sur des choses qui sont évidentes, seulement parce qu'on veut parler avec son cœur d'opposant, plutôt que de parler avec la rationalité d'un intellectuel? Et quand on vous dit que nous avons un parlement de non, c'est une injure non seulement à la majorité, mais aussi à tous les députés de l'opposition. Et je comprends bien, parce qu'ils dirigent un parti qui n'a aucun élu. Je me demande en quoi on est président d'un parti politique sans élu. C'est un autre débat, je crois que nous pourrons entamer une autre fois. Je crois qu'on doit faire un débat sincère. Les États-Unis, je l'ai dit bien et je le répéterai à Obama, à la prochaine occasion que je le verrai, qu'il vienne au Congo pour les intérêts des États-Unis. À nous de voir de quelle manière nous pouvons capitaliser cela. Donc, ce que vous venez de suggérer, lutter contre la corruption, améliorer la gouvernance économique, ce sont des choses importantes pour que les investissements extérieurs qui viennent dans notre pays puissent profiter non seulement à la croissance économique, mais puissent entraîner un développement de l'économie de la RDC, donc profiter aux populations. Je suis tout à fait d'accord.
Alors, il y a cet auditeur, François Zikouye, Jean Moulimbi, qui nous écrit depuis Kisangani en province orientale. Il pose plusieurs questions à la fois. Est-ce que l'Afrique est-elle incapable de produire 33 milliards de dollars? La Chine a donné, l'Union européenne, et aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Quel est le pays du monde qui s'est développé par les aides, avec toutes ces aides? Cela n'est pas une façon d'être dicté et colonisé par ces donateurs.
Non, je ne crois pas. Je crois que même les États-Unis aujourd'hui tire de l'argent d'ailleurs, notamment de la Chine, qui est si souvent critiquée par beaucoup d'intervenants, notamment, encore une fois, Emmanuel Ilunga. Et je n'ai pas non plus été tendre avec la Chine sur certains aspects. Et ça, il me semble qu'il a bouché les oreilles à ce moment-là. Mais j'ai dit que aucun pays au monde ne se développe à vase clos. Tous les pays doivent avoir des échanges qui soient mutuellement profitables. Mais je crois que il est vrai qu'aujourd'hui, les États-Unis restent les gendarmes du monde face à une faiblesse de la Russie qui est en train de remonter aujourd'hui pour donner contrepoids à la puissance américaine. La force militaire américaine lui donne des ailes qui les poussent à s'imposer à différents endroits. Nous devons savoir de quelle manière gérer ces ambitions américaines. Mais nous ne pouvons pas refuser des investissements américains qui peuvent s'ajouter aux investissements que nous pouvons générer dès la production intérieure, du développement de nos activités internes, l'agriculture, l'énergie et autres, qui puissent permettre qu'il y ait mieux-être, parce que nous sommes encore loin par rapport à l'Amérique et d'autres pays du monde.
Merci, Monsieur Nzekouye. Emmanuel Ilunga, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu.
Amos Bissima, à partir de la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. Les États-Unis doivent savoir que tous les pays africains ne sont pas pauvres comme on les pense, car beaucoup sont potentiellement riches, mais ont des dirigeants égoïstes et qui se soucient moins du bien-être de leur population. Le gros de cette aide américaine va encore retourner dans les comptes en Occident, où nos autorités gardent des milliers d'argent. L'important serait de mettre fin au néocolonialisme en laissant aux Africains de se choisir des leaders responsables au service du peuple abandonné souvent à son triste sort.
Alors, Emmanuel Ilunga, Amos Bissima pense que, estime que les États-Unis doivent savoir que tous les pays africains ne sont pas pauvres, comme on le pense.
Vous savez, il vient juste de conclure des très belles phrases. Deux choses. La première, messieurs les députés qui vont parler, moi je ne parle pas avec mon cœur, je parle avec beaucoup de rationalité, parce que je vous donne ma source, c'est l'Orient le jour. Les États-Unis a eu 200 000 emplois créés le mois dernier, et l'économie américaine est plus forte. Obama dit, mais beaucoup reste à faire. Donc, je ne parle pas avec les cœurs, je parle avec des chiffres. Depuis que vous avez commencé à parler, vous n'avez sorti aucun chiffre. Vous qui êtes député, qui êtes élu, mais vous parlez, vous donnez un langage totalement théorique, et vous n'avez pas de chiffres avec vous, je suis désolé. Deuxièmement, nous sommes un parti politique, chers messieurs, Et vous savez très très bien, ce n'est pas le débat du jour aujourd'hui.
Mais est-ce qu'on peut revenir dans le débat du jour, monsieur Ilunga?
Oui.
Est-ce qu'on peut revenir dans le débat du jour?
Qui ont été contestées par tout le monde.
Monsieur Ilunga, s'il vous plaît.
Oui.
Est-ce qu'on peut revenir dans le débat du jour? Est-ce que vous pouvez répondre à cet auditeur?
Oui, justement, pour revenir justement aux investissements des États-Unis d'Amérique, encore une fois, nous avons affaire à une économie forte. C'est pas que l'Afrique est pauvre. L'Afrique manque des dirigeants qui ont des ambitions. Monsieur qui vient de parler de Bukavu, il aborde dans mon sens. Nous avons des dirigeants qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de vision, qui ne mènent le bateau nulle part. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a que les députés et les ministres qui peuvent nous dire que le Congo va bien, la RDC va bien. Regardez l'indice de pauvreté. On voit des maladies, même pour ne serait-ce que apporter des médicaments dans un hôpital, il faut de l'aide extérieure. Donc ça dénote le taux de pauvreté dans un pays et les sous-développements. Il y a des magasins partout, ce sont des indices de pauvreté. Donc, monsieur le député, moi je ne parle pas avec les cœurs, j'observe mon pays et je regarde, je compare avec d'autres pays qui avancent. Tous les pays qui avancent en Afrique, c'est les pays dans lesquels il y a le droit et les libertés des citoyens sont respectées. Si aujourd'hui la majorité se remettait un tout petit peu en cause pour voir effectivement quelles sont les revendications de la population, qu'est-ce que les Congolais veulent pour que notre pays aille de l'avant. De toutes les façons, quoi qu'il arrive, nous devons un jour tôt ou tard nous mettre ensemble sans orgueil pour discuter de comment faire pour que notre pays avance. On peut nous donner tant de milliards. Si derrière il n'y a pas une volonté politique manifeste, je ne crois pas que ces milliards-là iront très loin. Donc jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun gouvernement, aucun ministre, aucun député ne peut donner des leçons à l'opposition. Parce que jusque là, ça fait presque 18 ans que le président Mobutu est mort, et le Congo est en train de chuter. Il périclite depuis toujours. Donc nous observons avec amertume, et nous sommes obligés, compte tenu de nos responsabilités, de tirer la sonnette d'alarme.
Alors,
nous le faisons. Pas de mauvaise foi.
Monsieur Emmanuel, il y a un autre auditeur qui nous écrit, Denis. Il s'appelle Denis. Il dit ceci, oui. Les Africains ne doivent pas être distraits par la promesse des États-Unis. L'Afrique peut produire plus de 30 milliards de dollars.
Mais encore une fois, chère madame, c'est que pour en arriver là, vous savez, c'est l'organisation. Il ne suffit pas d'être intelligent pour réussir à l'école. Encore qu'il faut travailler. Nous devons, l'Afrique peut produire. Même mon cher auditeur, il a raison. Nous pouvons aller plus loin encore. Nous avons des talents. Nous avons 8 à 9 millions de Congolais en diaspora, pour la plupart des cadres, qui sont prêts à retourner chez eux et apporter une valeur ajoutée. Mais ça, c'est dans un cadre politique sain. Dans un cadre où les gens acceptent de dialoguer et de se remettre en cause de temps en temps. C'est pas parce que on a la force militaire, on a la force publique, qu'on impose ce point de vue et qu'on a raison surtout. On ne peut pas avoir raison surtout. Je pense que notre pays souffre depuis très longtemps de l'orgueil personnel de nos dirigeants. De l'orgueil. On a parlé, notre auditeur, cher auditeur, il a dit, les dirigeants ils vont encore reprendre cet argent, ils vont investir dans les banques occidentales où ils ont l'habitude de remettre leur argent. Pour un peu, il a raison.
Merci.
Parce que c'est un constat que tout le monde a fait, y compris dans la gouvernement.
Merci, Emmanuel Ilunga. Michel Somoy, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Fungurume au Katanga.
Gauthier Mouseka à Fungurume au Katanga. C'est une décision salutaire, mais il faudra que l'Afrique comprenne. Quand on reçoit une aide, on sera toujours en dépendance, de loin ou de près, de la main qui donne. Car, dit-on, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Il est temps que les dirigeants africains comprennent que l'Afrique, pour se développer, a plus besoin juste du sérieux dans sa gestion. Et sans cela, même les 30 milliards ne résoudront rien des difficultés qu'elle traverse. Et aussi, elle doit comprendre qu'elle ne sera pas toujours une charge pour les autres nations.
Réaction du sérieux dans la gestion. Vous l'avez un peu abordé, Michel Somoy, tout à l'heure.
Exactement. Le problème qu'il évoque en rapport avec la dépendance vis-à-vis de l'aide étrangère devra quand même quelque part dépasser. C'est vrai que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Mais je pense que dans une stratégie de combat, il faut savoir aussi se servir de la force de l'adversaire pour le gagner et triompher.
C'est ce qui nous manque souvent. Ce qui manque à l'Afrique en général et au Congo en particulier, c'est le sens de la stratégie, l'absence de stratégie dans ce que nous faisons. On peut bien recevoir des aides, ce ne sera pas la première fois, on a déjà reçu des aides, même en termes de milliards. Mais pourquoi l'indice de pauvreté demeure toujours aussi élevé? C'est un problème d'organisation. Pourquoi notre économie demeure toujours, comment je peux dire, une somme de statistiques à la limite proche de mensonges officiels? Pourquoi? Parce que simplement, nous ne voulons pas mettre nos énergies, nos intelligences à l'organisation de l'économie nationale pour que nous puissions capitaliser toutes ces aides qui nous viennent de l'extérieur. J'ai parlé tout à l'heure du cadre d'accueil de toutes ces aides qui arrivent. Est-ce que nous avons déjà organisé notre espace dans ce sens-là? J'ai l'impression qu'on ne l'a pas encore fait. Il est dangereux de recevoir des montants importants d'investissements étrangers dans un pays qui n'est pas très organisé parce que ce genre d'investissement risque d'amplifier l'extraversion déjà pas tout notre pays. Nous sommes un pays abondamment extraverti, c'est-à-dire un pays étranger par rapport à nos propres intérêts. C'est un problème. Nous sommes en même temps une économie énormément désintégrée. Quand on parle de l'économie congolaise, on parle essentiellement de la désintégration totale du dos à dos, un dos à dos systématique, comme on le dit. Mais alors, une aide étrangère massive risque d'amplifier ces maux, ces tares, qui sont les tares congénitales de notre économie, si nous ne mettons pas en place rapidement un cadre de gestion rationnelle et efficace de toutes les ressources que nous pouvons recevoir. Encore faut-il dire que si les États-Unis mettent 33 milliards de dollars dans la cagnotte pour l'Afrique, le pays qui peut bénéficier du plus gros montant, étant donné les opportunités d'investissement qu'il présente, étant donné les atouts en termes de ressources naturelles, c'est naturellement la RDC. Mais aussi, ça serait aussi le pays le plus mal placé pour accueillir des aides les plus importantes parce que il n'est pas encore comme pays organisé d'un point de vue économique.
Alors, le président Obama a longuement insisté sur la responsabilité pesant sur les épaules des dirigeants africains. Je vais reprendre les termes. Les gens doivent être capables d'envoyer des biens sans payer un pot de vin ou embaucher le cousin de quelqu'un. C'est aussi un fléau quand même qu'on retrouve en Afrique.
Absolument. J'ai déjà dit dans plusieurs de mes interventions que lorsque les variables économiques sont creuses, vide de contenu, mal géré, mal appréhendé, mal comprise, elle se transforme en antivaleur sociale. Parmi ces antivaleurs, vous avez la corruption qui gangrène tout le système congolais. Mais ça fait que lorsque le président Obama établit comme parmi ses conditions une certaine gouvernance politique, une façon de gérer la politique des pays, mais ça risque d'être une façon de dire je t'aime moi non plus, parce que d'un point de vue politique, nous avons encore beaucoup de problèmes dans nos pays pour nous organiser efficacement comme système politique. Encore faut-il qu'on se pose la question de savoir combien sur 77 millions de Congolais font partie ou adhèrent à des partis politiques, et ceux qui adhèrent à des partis politiques, combien cotisent-ils pour la survie de leur parti politique? Qu'est-ce que ça veut dire finalement pour le citoyen congolais qu'un parti politique? Donc ça, ce sont des questions qui font que nous ne devons pas placer la charrue devant les bœufs. Nous avons encore beaucoup de travail à faire dans notre pays, et du point de vue politique, et du point de vue économique, et qu'on ne se leurre pas, sinon nous sommes encore trop loin, et tout ce que nous pouvons recevoir comme aide risque de se transformer, justement, de passer dans la même casserole de la corruption.
François Ndékouyé et Emmanuel Baudio d'Issiron, province orientale, débloquer des montants pour l'Afrique ou pour la RDC n'est pas mauvais, mais il faut bien définir les secteurs ciblés pour exécution et aussi les projets à réaliser avec ce fonds.
Oui, il a raison. Encore que c'est là que je vais rebondir, parce que tout le monde parle de l'aide. Je ne crois pas que les États-Unis ont promis une aide à l'Afrique. Les États-Unis ont promis d'investir en Afrique, ce qui est très différent. Ça veut dire que General Electric, qui a été cité nommément par John Kerry et d'autres sociétés américaines qui sont dans le domaine de l'électricité, vont vouloir gagner des marchés en Afrique pour l'électricité. C'est là, en fait, l'essence. Donc, il est vrai que la corruption...
Le président a parlé aussi d'aide publique, une aide publique.
En tout cas, cette aide publique, je suis presque à 100% convaincu qu'elle va passer par les entreprises américaines pour pouvoir se matérialiser. Parce que les projets Power Africa, c'est un projet que les Américains ont et qui a comme équilibre, c'est que les entreprises américaines vont venir construire des barrages hydroélectriques en Afrique au profit de l'Afrique, mais au profit aussi des entreprises américaines. Donc, cette question, il faut l'appréhender de cette manière-là. Les Américains ne sont pas généralement des personnes qui sont générées à donner de l'argent pour de l'argent. Et donc, tenant compte de la faiblesse réelle aujourd'hui de nos structures en matière de gestion qui s'améliorent. Il ne faut pas non plus donner l'impression que tout va mal. Aujourd'hui, il y a des passations de marché par appel d'offres, il y a recrutement des employés de l'État par concours, il y a des investissements qui se font dans le domaine divers, le domaine de la santé, des écoles, des infrastructures, de la création des emplois, de l'agriculture récemment avec Bougangalozo. Il faut aussi dire ce qui va. Parce que j'ai l'impression qu'au Congo, on ne parle que de ce qui ne va pas. La corruption reste un phénomène réel en République démocratique du Congo. Il faut lutter contre cela, mais des mécanismes sont en train d'être mis en œuvre pour lutter contre cela et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de transparence, plus en plus d'objectivité dans l'embauche, comme l'a dit si bien Obama. Et cela concerne toute l'Afrique, parce que j'ai l'impression aujourd'hui que beaucoup d'interlocuteurs tendent à réduire ces débats à une conférence États-Unis-RDC, ce qui ne l'est pas. Donc ce sont des mots qui rongent l'Afrique et tous les Africains, nous devons les combattre en nous unissant les uns et les autres pour que l'Afrique réponde aux normes des standards internationaux aujourd'hui dans tous les domaines. Mais des efforts sont en train d'être fournis et c'est pour cela, du reste, que les Américains sont prêts à investir parce qu'ils se disent qu'ils ont un partenaire qui peut être crédible aujourd'hui en Afrique.
Alors, je vais vous demander aussi de conclure, François Nzekouyé.
Ma conclusion est que c'est très bien ce qui a été fait aujourd'hui entre les États-Unis et l'Afrique. Ça va profiter aux Américains, ça va profiter aux Africains, mais il faut que chacun, de sa manière, puisse négocier de manière que ce soit un partenariat win-win et non pas un partenariat où les Américains vont gagner et l'Afrique va perdre.
Merci François Nzekouyé. Emmanuel Ilunga, il faut bien définir les secteurs où cet argent sera utilisé et les projets à réaliser avec ce fonds promis par les États-Unis.
Oui, au-delà de ça, vous savez, encore une fois, je reviens sur la volonté politique qu'il doit y avoir, parce que c'est ça qui va détendre l'atmosphère et qui va donner de la matière aux Congolais de déployer les génies qu'ils ont. Parce que si les États-Unis peuvent venir avec autant d'argent, si à l'intérieur même de notre pays, en RDC, il n'y a pas cette volonté politique, et du côté de la majorité, mais aussi du côté de l'opposition, de se mettre ensemble et de voir les objectifs principaux pour notre pays, je pense que ça va être un coup d'épée dans l'eau. Et aujourd'hui, important, c'est d'organiser les cadres politiques qui vont accueillir, ou vous appelez ça comme vous voulez, ça peut être appelé comme une aide ou un investissement, mais il faut un cadre politique adéquat. Et aujourd'hui, on n'en a pas. Il y a des opposants qui sont arrêtés, et Ouanga, il est arrêté. Donc nous sommes en difficulté pour l'instant. Et ce qui est important, primordial pour la RDC, c'est de discuter d'abord sur l'organisation politique administrative de notre pays. À partir du moment où nous aurions une organisation politique et administrative cohérente, je pense que beaucoup de choses vont aller tout seul. Parce qu'aujourd'hui, vous ramenez des investissements, la justice ne fonctionne pas correctement. Quels que soient les milliards, ça va être encore compliqué. Monsieur le député vient de le dire, et encore, là je le remercie parce qu'il reconnaît implicitement qu'effectivement, la corruption gangrène notre pays et que ça ne va pas. Ça je le remercie pour autant.
En conclusion,
et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un cadre politique et administratif cohérent pour permettre à nos compatriotes d'avoir un pays digne de ce nom.
Merci.
Vous avez vu quand on nous a chassé des bras d'avis.
Merci.
Je terminerai par là.
On n'a plus beaucoup de temps, nous sommes désolés, M. Emmanuel Ilunga. Michel Soumoué, conclusion.
Bon, je veux d'abord rectifier quelque chose pour l'honorable Franck
Nzekouyé.
Quand on dit aide, ce n'est pas, il ne s'agit pas d'un don. L'aide à l'investissement, c'est pas un don. Les prêts font partie des aides. C'est différent des dons. Mais lorsque nous parlons des choses qui vont bien, on n'en convient pas, il y en a quand même. Mais ne citez quand même pas les syndicats que vous citez, la transparence, les écoles, la croissance, c'est pas vrai. Parce que vous savez très bien, mieux que moi, les rapports sont officiels de la Banque centrale qui vous disent que le PIB réel par habitant n'est que de 110 dollars aujourd'hui au Congo. 110 dollars par habitant, PIB réel, c'est dans le rapport de la Banque centrale.
Merci,
vous parlez de la transparence, c'est ce qu'on dit du pétrole.
Merci, Michel Sommouet.
Et c'est dangereux, Kelly, si on va gérer.
Merci,
les...
Michel. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.